Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise!
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonsoir à toutes, à tous et aux autres aussi, 17h sur Syllab, vous êtes au bon endroit dans l'inattendu, votre quotidienne d'actualité locale rennaise, et plus encore, à mes côtés en studio Marie, bonjour Marie.
Salut Victor, au programme de l'émission aujourd'hui, Marion a rencontré Thomas Borel, porte-parole de l'association Survie et co-directeur de l'ouvrage collectif L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Toi Victor, tu reçois des membres du festival Entrée dans l'Arène, un festival organisé par l'Arène Théâtre, en ce moment à Rennes 2.
En fin d'émission, on retrouvera Rebecca qui a rencontré Pascal Derkinderen, professeur des universités et praticien hospitalier en neurologie à Nantes, pour nous parler du lien entre tubes digestifs et maladies neurodégénératives.
Un programme très riche qu'on écoute tout de suite, c'est parti pour une heure d'inattendu.
Et tout de suite donc Marion qui a rencontré cet après-midi Thomas Borel qui a animé hier soir une rencontre débat pour présenter l'ouvrage collectif qu'il a co-dirigé, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique.
Aujourd'hui je reçois Thomas Borel qui est l'un des porte-parole de l'association Survie et qui est également co-directeur de l'ouvrage collectif L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour présenter l'association Survie, elle dénonce toutes les formes d'intervention néocoloniale française en Afrique. Elle milite pour une refonte réelle de la politique étrangère de la France en Afrique et se mobilise contre la France-Afrique. En quelques mots, depuis combien de temps a Survie vous contribué pour faire connaître la France-Afrique? Et toi, en tant que porte-parole de Survie, comment est né ton engagement pour cette cause?
L'association Survie, elle tire son nom d'une époque où elle faisait complètement autre chose. Et donc, elle est née au début des années 80 pour une loi sur l'aide au développement. L'idée était d'aider davantage. C'était une loi de survie. Et donc, l'association existe depuis cette époque. Ça fait plus de 30 ans maintenant. Mais elle a évidemment changé, puisque plutôt que d'aider davantage, maintenant, elle cherche d'abord ne pas nuire. Et donc, moi, j'ai croisé pour la première fois la route de l'association il y a une vingtaine d'années. J'étais parti, ce qui va obliger à dire mon âge, j'étais parti à 20 ans en stage au Burkina Faso. Et j'avais très mal vécu les conditions de vie des Blancs là-bas, l'écart, ce qui se passait. Et en rentrant en France, on m'a parlé de l'association Survie et j'ai fait l'erreur, je crois, de ne pas m'y intéresser tout de suite. Et c'est quelques années plus tard que j'ai lu certains ouvrages, que j'ai commencé à m'y intéresser et que j'ai eu une véritable nausée à l'idée de ce qui avait été fait en notre nom, à nous, Français, Françaises, en termes de politique en Afrique. Et donc, j'ai commencé à m'engager de cette manière-là. Simplement pour reprendre un peu ma voix de citoyen dans cette affaire.
Et maintenant, on va parler de l'ouvrage collectif que tu as co-dirigé, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Mais avant, on va contextualiser un peu. La France-Afrique désigne un système politique qui prend racine au moment des indépendances africaines, en 1960. Dès lors, l'État français met en place des réseaux d'influence pour garder la mainmise sur ses anciennes colonies. On peut parler d'un système opaque qui se noue entre des élites françaises et africaines pour servir mutuellement leurs intérêts au détriment des peuples africains. Tout au long de la Ve République, les présidents français se sont succédés et l'histoire de la France-Afrique s'est écrite avec eux, en silence. Et justement, dans votre ouvrage, comment avez-vous passé au crible ces 60 années et même plus de relations franco-africaines pour en révéler sa part de secret?
Alors justement, c'est vrai que dans cet ouvrage, on repart même un peu plus loin. On démarre à la Seconde Guerre mondiale en analysant la manière dont la France-Afrique se met en place pendant l'époque coloniale. C'est rigoureusement exact hein, ce que tu as dit sur la manière dont, au moment des indépendances, simultanément, on confisque finalement une part de souveraineté et ce sont des indépendances sous contrôle qui sont accordées. Mais ça, ça remonte, c'est en discussion finalement dans des cercles politiques français, dans des cercles coloniaux, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et le mot même de France-Afrique apparaît pour la première fois en 1945 et non pas plus tard, à la fin des années 50, comme c'est souvent dit. Donc c'est ça aussi qu'on raconte dans ce livre, la manière dont, à l'époque, les lobbies coloniaux se rendent compte, face à la contestation de la présence française en Afrique, de la présence coloniale, qu'il va falloir aménager le système, qu'il va falloir changer un peu, mais pour que rien ne change structurellement, pour conserver une forme d'emprise. Et c'est ça qu'on explore dans le livre. Par ailleurs, sur la façon de fonctionner, enfin, de ce qui caractérise la France-Afrique, il y a tout cette partie occulte, ce manque de transparence dont tu as parlé. Et puis, il y a des mécanismes officiels, des accords de coopération au plan militaire, au plan monétaire avec le franc CFA, sur tous les pans de la vie, finalement, des populations des nouveaux États qui se mettent en place en 1960. Et ce qu'on explique dans ce livre, en explorant à la fois certains volets occultes, sulfureux, méconnus, mais aussi toute cette histoire, finalement, qui s'est faite au grand jour, mais qui est insuffisamment analysée, c'est la manière dont la France-Afrique est bien une sorte de pièce avec deux faces, une face occulte, une face officielle, mais qui vont ensemble et qui, ensemble, contribuent à priver de souveraineté les peuples de ces pays-là et qui contribuent aussi à gangréner la démocratie chez nous par des effets de retour, de corruption, de circulation d'argent, de pouvoir indu. Et donc, c'est bien aussi un enjeu démocratique en France.
Et pour raconter cette histoire de la France-Afrique, vous écrivez en une de votre ouvrage « Guerre, pillage, racisme, coup d'État, corruption, assassinat ». C'est donc un système politique criminel que vous voulez révéler. Mais comment se fait-il que tous ces crimes soient restés dans l'ombre ? Est-ce que ça relève du secret d'État, de l'indifférence de l'opinion publique ? Nous, quelle peut être notre part de responsabilité ?
Alors effectivement, ils ne sont pas complètement restés dans l'ombre, c'est-à-dire qu'une bonne partie de ces crimes peuvent faire, y compris à l'époque où ils ont été commis, peuvent faire l'objet de certains petits articles de presse, mais ne font pas l'objet de grands scandales. Et plus près de nous, par exemple au mois de novembre, fin novembre, il s'est passé un événement similaire. L'armée française, il y avait un convoi qui était bloqué à la frontière, d'abord au Burkina Faso, puis au Niger. Et face à la foule de manifestants, l'armée française a tiré et il y a eu des morts. C'est-à-dire que notre armée a tiré sur des manifestants pacifiques, désarmés, au Niger, que ça a fait des morts et que ça ne produit absolument pas de scandale chez nous. La presse en a un petit peu parlé, mais... quelque part, en contribuant tout en parlant, à le passer sous silence, en ne conférant pas l'importance à ce type d'événement, l'importance que ça mérite. Et une des raisons à ça, et qu'on essaye d'expliquer tout au long, nous, de cet ouvrage, c'est quelque part la manière dont un imaginaire colonial perdure dans nos sociétés, à la fois en France, mais aussi parfois parmi les populations africaines. Mais en tout cas, en France, cet imaginaire colonial avec une forme de racisme latent, pas assumé. On ne parle pas du racisme décomplexé qui va insulter des gens, etc. Mais cette idée que quelque part en Afrique, c'est moins grave, quelque part c'est plus acceptable. Voilà, c'est aussi ça qui joue dans cette question-là.
Et la France-Afrique fait donc référence à ces affaires criminelles, mais aussi à des affaires de corruption. Et j'ai entendu, tu as dit, la France-Afrique est un système qui repose en bonne partie sur des fondations légales. C'est difficile à comprendre. Alors quels sont ces mécanismes dont tu voulais parler et comment expliquer qu'ils aient été intégrés sans inquiéter ?
En fait, ils sont l'essence même du système. Au moment des indépendances, Michel Debré, le Premier ministre en France en 1960, explique au Premier ministre gabonais, il y a deux systèmes qui vont ensemble, les indépendances et les accords de coopération, l'un ne va pas sans l'autre. Ces accords de coopération, c'est ça qui crée ces liens et qui crée ce mécanisme institutionnel de confiscation d'une partie de la souveraineté. Donc, tout simplement, c'est assumé à cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est souvent commenté comme une manière d'avoir aidé les jeunes États à se mettre en place. C'est en fait une manière aussi de confisquer cette souveraineté.
Et dans l'ouvrage, il est écrit « À Paris, on entend de toutes parts le même refrain « La France-Afrique est morte et enterrée ». Pourtant, de Ouagadougou à Libreville, de Dakar à Yaoundé, de Bamako à Abidjan, la jeunesse se révolte contre ce qu'elle perçoit comme une mainmise française sur son destin. » Peut-être que l'on pourrait expliquer aujourd'hui de quelle manière la présence française se traduit en Afrique et par quel biais cette influence perdure-t-elle ?
Alors, le fait qu'elle perdure, par exemple, par la présence de l'armée française dont j'ai parlé, l'armée française n'a jamais quitté le continent africain depuis le 19e siècle. Alors aujourd'hui, on nous dit que c'est au titre de la lutte contre le terrorisme, mais il y a aussi de la coopération militaire, des officiers français qui sont dans les appareils répressifs pour apporter un conseil sur la manière de faire fonctionner ces armées-là. Il y a la manière dont la France est présente, c'est au plan économique, avec des entreprises qui continuent de faire des gros profits. On est en Bretagne, on peut penser à l'entreprise Bolloré. Il y a évidemment des aspects aussi plus diffus par la coopération, l'aide au développement, et qui sont aussi en réalité des modes d'influence et qui vont contribuer, même si les personnes sont de bonne volonté souvent là-dedans, mais qui vont contribuer à une forme d'emprise. Et puis il y a la monnaie, le franc CFA, qui est venu cristalliser justement la colère de cette jeunesse africaine dont tu parlais.
Et la France-Afrique existe donc toujours ? Pourtant, ce terme-là, Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, ne veut pas en entendre parler. Il a tout fait pour s'en débarrasser. Alors pourquoi ? Quelles sont ses raisons ?
La France-Afrique, pendant longtemps, moi quand j'ai commencé à être à l'association Survie, on nous disait ça n'existe pas, c'est une invention de militants et de militantes. Puis on nous a dit ah oui, ça a existé, mais ça appartient au passé. Nicolas Sarkozy a dit qu'il allait mettre fin à la France-Afrique. François Hollande, candidat, a dit qu'il allait mettre fin à la France-Afrique. Et Emmanuel Macron, candidat, a dit qu'il allait mettre fin à la France-Afrique. Et justement, ce qu'on montre dans ce livre, c'est qu'en dépit de ses gesticulations, ce qui fait l'essence même de la France-Afrique, la structure de la France-Afrique, perdure. Et cela évolue dans le temps, le contexte évolue et donc il y a des adaptations, il y a des réformes. Et Emmanuel Macron a mené quelques réformes sur lesquelles il a beaucoup communiqué, mais qui n'ont pas changé fondamentalement le système.
Donc la France-Afrique est sans doute un système qui s'est adapté, mais aujourd'hui il y a une rupture entre la France et ses anciennes colonies. L'image de la France continue de se dégrader et le rejet de cette ancienne puissance coloniale ne cesse de se manifester. Des manifestants ont notamment pu écrire « Abat Macron, vive la Russie », un sentiment anti-français unanime et une influence politique et économique de la Russie et de la Chine qui grandit. Alors comment on pourrait expliquer ce point de bascule ?
Alors, il n'y a pas forcément un point de bascule. Il y a une évolution qui, là encore, n'est pas complètement nouvelle. Dans les années 50, et c'est ça qu'on montre dans le livre, dans cette perspective historique, dans les années 50, il y a aussi cette idée qu'il y a des puissances concurrentes, les anglo-saxons notamment, qui viennent saper la confiance, la relation entre la France et les États africains. Aujourd'hui, on accuse la Russie de jouer un rôle. C'est vrai qu'elle souffle sur des braises, mais les braises sont déjà là. Il n'y a pas besoin de la Russie pour ça. Et donc, on a une colère qui se cristallise, qui devient à un moment un point de bascule momentané dans certains pays, en Centrafrique, au Mali, mais ailleurs, les États des autres pays africains continuent de fonctionner avec la France. Et il faudra voir dans quelques années où est-ce qu'on en sera, parce qu'en Centrafrique, ça s'est déjà produit, par exemple, en 1997. On avait la même chose. Et puis quelques années plus tard, l'armée française est revenue, la France est revenue. Elle est à nouveau repartie. Mais on ne peut pas conclure, là, sur un temps très court, qu'il y a soudainement un basculement en cours. On peut peut-être l'espérer, en tout cas, c'est mon cas, mais on ne peut pas le conclure à ça. Et puis, par contre, on peut déplorer que pour rejeter la France, des gens qui en ont marre de l'impérialisme français se tournent vers un autre impérialisme, celui de la Russie, ou l'impérialisme économique de la Chine. Mais ça, ce n'est pas à nous, Français, de mener ce débat-là. C'est un débat qui doit avoir lieu en Afrique.
On comprend donc que l'influence de la France est d'une certaine manière indissoluble. Elle restera toujours là, mais la politique étrangère de la France en Afrique doit être repensée. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achève sur un échec au regard de la situation sur le continent, des émeutes à Dakar en 2021 qui avaient pris pour cible des enseignes françaises, au Mali, la fin de l'opération Barkhane qui laisse le pays en plein chaos. Quel rôle la France doit-elle adopter ?
Justement, la difficulté au regard de ce qui se passe au Mali, on pourrait se dire, ça vient nourrir une sorte de fantasme selon lequel, regardez, c'est pire quand nous ne sommes pas là, qui est un des gros arguments qui est mis en avant. Au contraire, nous pensons qu'il faut accepter que l'histoire s'écrive sans la France. Il faut accepter d'avoir de l'humilité par rapport à cette histoire-là. Il y a des mouvements de résistance africains, il y a des mouvements panafricanistes, il y a d'autres toutes formes de résistance qui se créent et qui réinventent des avenirs politiques. Et ce n'est pas à nous de devoir écrire cette histoire-là. Donc c'est vers cela qu'il faut aller. Et il faut aller vers un retrait de l'armée française d'Afrique. Et il faut aller vers, par exemple, couper complètement les ponts au niveau monétaire, que la France sorte du franc CFA, au lieu d'en faire quelques réformes pour essayer de sauver le système. Et c'est bien ça l'évolution, nous, à laquelle on appelle. Et pour l'instant, avec Emmanuel Macron, effectivement, le compte n'y est pas.
L'histoire doit s'écrire sans la France, mais alors comment pourrait-on imaginer des relations franco-africaines saines ?
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relations, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des liens qui peuvent se faire, des liens de solidarité. Nous, par exemple, l'association Survie, avec les Amis de la Terre en France, on a, avec des ONG d'Ouganda, déposé une plainte contre le groupe Total par rapport à un projet climaticide et une bombe aussi au niveau social dans ces pays-là, ces pays, parce qu'il y a en Ouganda et en Tanzanie. Et donc, on a déposé une plainte et là, on agit de concert et donc, il y a bien une relation. Il s'agit pas de dire qu'il n'y a plus de solidarité, qu'il faut se refermer, se barricader chez soi quelque part. C'est absolument pas le discours. Par contre, c'est accepter que ça ne soit pas la France et l'armée française qui interviennent. C'est réfléchir à comment faire évoluer les institutions internationales pour que la France n'ait plus un tel poids à l'ONU, par exemple, elle et les autres membres permanents du Conseil de sécurité. C'est finalement accepter que de redonner une place à des actions multilatérales dans lesquelles la France n'est pas au centre du jeu. Et donc, c'est revoir, avoir de l'humilité pour revoir un peu cette idée selon laquelle la France serait une grande puissance et qu'elle doit rayonner de par le monde. Non, la France, il faut aussi plutôt chercher à être humble et à essayer de construire des solidarités qui n'écrasent pas les autres peuples.
Merci beaucoup Thomas Borel pour cet éclairage. Et on rappelle que l'ouvrage collectif que tu as co-dirigé et que tu présentais à Rennes s'intitule « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique » et c'est paru aux éditions du Seuil en 2021.
Merci beaucoup.
Et si cette interview vous a intéressé et que vous souhaitez aller plus loin, retrouvez en intégralité sur la chaîne YouTube Survie la rencontre débat que Thomas Borel a animée hier.
Syllabe.
Nous avons la chance exceptionnelle de pouvoir assister à un événement rarissime.
La radio sauvage.
Ah ouais, effectivement.
Tout de suite, place aux MC René Casta et Oliver Saf du projet hip-hop Marché Noir. Leur album Souterraine sortira le 25 mars. En attendant, ils viennent de nous dévoiler quelques titres, dont Trois Soleils que vous allez entendre tout de suite. Vous reconnaîtrez sûrement la voix de Marion Rouxin sur le troisième couplet. On écoute ça tout de suite.
Il fait chaud ou c'est moi?
Même l'amour est devenu click and collect. On est vite obsolète, peu de soleil alentour. Mais je traîne quand même dehors, même si j'ai pas de bif, frère. Un citoyen, c'est juste un code à 4 chiffres. Placé dans le métro, à se tousser dessus. Puis tous ces messieurs exultent à l'idée de passer dans l'heure des pros. Placer la peur des autres et celle de l'inconnu. Telle une doctrine absolue pour ne pas regarder leurs défauts. Je préfère danser derrière le cul d'une déesse. À siroter les méandres de mes nuits, soliloquer parmi les cendres d'une ville, et jouir dans le ciel comme une fusée de détresse. Mais bon, à part ça, rien de neuf, gros, le taf c'est pas ouf, et puis j'attends que les barres ouvrent. Intérimaire, je crois que ça doit être génétique. Intellectuel comme un triso chez les flics.
J'ai mes trois soleils, même si c'est l'orage. Je me prends pour quatre belles, ça me rend courageux. J'ai d'amour à la pelle pour faire face aux rageux.
Salut, comment ça va, la vie est belle? Ouais ça va, on est là, formule de rhétorique. J'ai grave de futurs projets à la paix. Ouais c'est ça, c'est que du fake virtuel historique. J'ai jeté mon filet à la traîne, semé quelques graines, je prends mon mal en peine, bien que je kiffe nocif. J'ai revu tous mes préjugés à la baisse, quand bien même on me rappelle que mon fer de lance est corrosif. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça dépend si t'es la pute ou le mac qui profite. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça dépend si t'es la mule ou bien si t'es le grossiste. Il n'y a pas de victoire sans échec. Soit tu remises, soit tu check. Dans les faits, tout est anachronique. Personne ne contrôle l'avenir de l'affect. En effet, le passé nous guette, la jalousie est anatomique.
J'ai mes trois soleils, même si c'est l'orageux. Je me prends pour quatre coups de ça me rend courageux. J'ai l'amour à la peine pour faire face orageux.
Le feu partout, autour, partout, ça crame, ça chauffe, ça rend fou. La canicule dedans, dehors, ça ruisselle sur tout le corps. Ce serait l'amour que ça serait beau, mais pas bien sûr que ce soit ça, ça serait beau si c'était l'amour. Mais tout se rouge partout autour, et le sol qui craquelle sous nos pieds, plus si facile de respirer. Mais il va pourtant bien falloir ouvrir ses poumons, prendre l'air. Même chaud, même épais et cendré, va-t-il vraiment falloir s'y faire? Tout se brûle en haut dehors, à cette masse obscure et poisseuse qui nous empêche et nous endort. Faire quelque chose, faire quelque chose, faire quelque chose. Nous transformer en orageuse. Redessiner, vas-y on ose. Ouvrir les vannes, se serrer fort et espérer au loin, là-bas. Il fait chaud ou c'est moi?
J'ai mes trois soleils, même si c'est l'orageux.
3 soleils de Marché Noir. Vous êtes toujours dans l'inattendu sur Syllabe.
Est-ce que ce ne serait pas le moment idéal pour un chant d'adieu ?
Syllabe.
La radio sauvage.
Ah ouais, ça fait du bien.
Et tout de suite, Victor, tu reçois 3 membres du festival Entrer dans l'arène.
Oui, Marie, alors on reçoit donc Léa, Yona et Charlie ce soir, bonsoir.
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 Alors on va faire un petit tour de table. Donc Léa, tu es responsable partenariat du festival Entrer dans l'arène.
C'est ça.
Charlie, tu es coordinatrice de projet.
Exactement.
Et tu présentes également une création dans ce festival, on en parlera tout à l'heure. Et Yona, tu es responsable également au sein du festival.
Et oui, c'est moi qui gère tout ça.
L'administration, très bien. Entrer dans l'arène, qui est un festival de l'arène théâtre, qui est une association qui vise à promouvoir et faciliter la pratique du théâtre par les étudiants et les étudiantes à Rennes 2. Ce festival a lieu du 16 mars, donc depuis hier, jusqu'au samedi 26 mars, donc jusqu'à la semaine prochaine. Plus de 10 jours de festival. Donc de nombreuses créations présentées, beaucoup de théâtre évidemment, avec des créations originales et des textes existants. Il y a aussi quelque chose autour d'une comédie musicale, il y aura de la scène ouverte. Pour revenir un petit peu sur l'arène théâtre, comment au quotidien l'arène travaille avec les étudiants, les étudiantes et les différents projets portés ?
Bah, du coup, on a plusieurs choses en début d'année. On accueille du coup des projets par des dossiers de candidature. On étudie ces projets-là d'un point de vue technique et pas esthétique. Et si tout est correct, on les accepte et en fait on les accompagne tout au long. S'ils ont des questions, si on leur donne une salle, la Pina ou le B4. Et en fait, ils répètent un jour dans la semaine, 3 heures. De 18h à 21h ou de 21h à minuit. Et sinon, on a aussi des activités. On a l'atelier qui d'ailleurs ont eu leur représentation ce midi. Et c'était très bien d'ailleurs. Et il y a sinon aussi du coup le stage qui va arriver en avril. Sinon, il y a des week-ends gratuits. Il y a le théâtrosphère qui a lieu du coup ce soir de 18h30 à 19h30. À la bibliothèque de théâtre Guy Parigot, à côté de la DEC. Et du coup, on va accueillir Ezekiel, qui est aussi un chargé de projet à l'arène. Et il a joué du coup, son projet hier, c'est le Métamorphe. Et du coup, il va nous parler de son projet, tout ça. Et voilà.
Bien. Est-ce que cette année, donc pour ce festival, il y a un fil directeur, un thème que vous avez essayé de porter, de mettre en avant dans les différentes créations ?
Non, il n'y en a pas forcément. C'est vraiment... Il y a plein de choses très très différentes. Et c'est ça aussi qu'on aime, c'est pouvoir donner la chance à plusieurs styles de théâtre. Comme vous l'avez dit, il y avait une comédie musicale. Donc vraiment, c'est laisser libre tous les projets de faire ce qu'ils voulaient.
Qu'est-ce que, aussi à travers ce festival, qu'est-ce que vous souhaitez porter ? Est-ce que c'est juste simplement pouvoir donner aux étudiants et étudiantes qui font du théâtre le moyen de s'exprimer ou c'est aussi peut-être une manière de rapprocher les étudiants et les étudiantes du théâtre en général ?
Vraiment, l'objectif de l'arène, c'est vraiment de créer des liens et de proposer du théâtre accessible à tout le monde, notamment aux étudiants. En général, on sélectionne, comme le disait Léa, il y a plein de dossiers d'étudiants qui veulent porter leur projet. On essaie justement de sélectionner des projets qui sont assez différents, éviter de prendre trop de théâtre classique ou des choses comme ça pour permettre à tout le monde de s'y retrouver. Et vraiment, cet objectif, c'est de pouvoir toucher des étudiants. Évidemment, on a beaucoup de spectateurs qui viennent de filières artistiques. C'est quand même les premiers qui viennent. Mais après, moi, par exemple, je suis en études, pas du tout. Je suis en études de langue, genre rien à voir. Et pour autant, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être en AES, qui peuvent être en études scientifiques, tout ça, qui peuvent venir. Et vraiment, c'est ça qu'on essaie de chercher le plus possible, justement, d'essayer de démocratiser et de pas juste dire c'est réservé seulement aux étudiants en art, que c'est un truc qui n'est pas accessible, que, je sais pas, il faut avoir des références énormes en culture ou en théâtre. Alors que non, en fait, c'est ce truc-là qu'on veut, de se dire que c'est pour absolument tout le monde. Je sais qu'il y a... une personne qui est venue me voir par rapport justement au festival qui voudrait emmener des jeunes, elle voulait emmener des jeunes, notamment des jeunes handicapés qui seraient plutôt atteints de trisomie ou d'autisme et qui justement est venue me voir en me disant est-ce que ce serait quand même accessible pour eux, est-ce qu'ils peuvent suivre, est-ce que non c'est trop compliqué et je lui ai dit ben, c'est totalement possible. Voilà quand même les spectacles qui sont plus destinés pour eux, parce qu'il y a des spectacles quand même qui sont compliqués à comprendre. Il y en a qui vont... Enfin, vraiment, il y a vraiment de tout. Et du coup, je me dis, ben voilà, il y a genre 3-4 spectacles quand même qui sont vraiment accessibles, même à un très jeune public. Et c'est ça qu'on a envie, c'est de voir vraiment... Enfin, quand on voit les spectacles, enfin, il y a des gens qui peuvent être... Enfin, des personnes plus âgées, des personnes vraiment très jeunes qui vont venir, des gens qui viennent un peu de partout, et c'est ça qui fait trop plaisir, quoi.
Et donc Charlie, donc toi tu fais partie donc de l'organisation de ce festival, mais si on rentre donc dans le cœur de la programmation, tu présentes également avec d'autres personnes une création durant ce festival, une création qui s'appelle Vois-moi, donc Voix V-O-X. Un simple miroir de vos mots les plus profonds, seriez-vous en mesure de prendre place, de vous affronter enfin devant la glace? Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, de quoi est-ce qu'il est, il est question derrière cette mystérieuse description?
Eh ben en fait c'est une création, on est un petit groupe, on est quatre comédiens, donc quatre sur scène, donc il y a moi qui suis sur scène aussi. On a aussi deux après techniciens qui sont avec nous, deux techniciennes en fait, qui sont là pour créer, et du coup on a un micro-comité. Et en fait, l'objectif de base, moi, c'est que je me suis dit, ok, j'adore le théâtre, j'en fais depuis toujours, c'est un de mes endroits que j'adore. Venez, on parle de choses dont on parle pas. Venez, on parle des choses où, en général, les gens, quand on essaie d'en parler dans la vraie vie, les gens, ils sont genre, bof. Et je me suis dit, j'ai envie de mettre tout ça sur scène, c'est-à-dire que les gens seront obligés de nous écouter ou de nous voir. Et en fait, c'est pour ça que c'est Vois-moi, le petit jeu de mots entre la vue et la voix, c'est le fait de nous entendre et de nous regarder. Et en gros, tout ce projet-là, c'est des textes que nous, on a écrits, c'est que des écritures personnelles. De choses qui nous ont touchés, nous. Donc, on parle, on a pas mal de trigger warning parce qu'on parle de choses qui peuvent être assez dérangeantes pour certaines personnes. On parle d'angoisse, on parle d'agression sexuelle, on parle de troubles du comportement alimentaire, on parle de maladie mentale, on parle de toutes ces choses-là, en fait, dont, en fait, on la trouve pas assez représentée. Sauf que moi, je sais qu'autour de moi, ça touche quand même vachement, vachement de gens. Je pense que tout le monde autour de soi a quand même des personnes qui connaissent, qui savent ce que c'est l'anxiété, ce que c'est d'avoir peur, ce que c'est de trouver sa place et de ne pas réussir à se sentir à l'aise, d'avoir se questionner sur son genre, tout ça. Et je me suis dit, en fait, toutes ces choses-là, moi, j'aimerais bien les voir sur scène. Et là, j'ai plus de 20 ans et je ne les ai toujours pas vues sur scène. Pourquoi pas à moi de les poser sur scène? Et justement, en fait, la Reine Théâtre, moi, je la suis depuis... depuis 4 ans maintenant, et c'est un super endroit pour accompagner des jeunes étudiants qui voudraient proposer un truc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est à moi d'aller porter le projet, et c'est à moi d'aller mettre ça sur scène, et de me dire que peut-être le mini-moi d'il y a 4 ans, il serait content de voir ça sur scène, quoi.
Et justement, je crois que c'est un projet, une création qui existe depuis plusieurs années, qui a pu être portée l'an dernier, notamment pour l'édition du festival, donc qui s'est produite en ligne aussi. Mais il y a quand même eu... des créations un petit peu différentes, c'était autour de la vidéo, c'est ça?
C'est ça.
Il y avait donc des émissions radiophoniques, par exemple, Elle est là a réalisé donc une émission radiophonique. Il y a eu également des courts-métrages de faits pour la contre-soirée. Et il y a eu des vidéos donc de teasers comme Vois-moi qui a réalisé ça. Il y a eu des chansons, il y a eu pas mal de choses de faites. Ils ont bien su se retourner après ce petit revirement de confinement.
Et donc vous proposez aussi un événement autour d'une journée particulière, donc le titre d'une pièce donc de Giulia Fantoni et Ruggero Macari, et film donc d'Ettore Scola. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet événement?
Journée particulière, donc c'est un spectacle en lien avec le service culturel de Rennes 2. Et je n'ai pas encore vu le spectacle, donc pour moi ce sera tout autant une surprise que le public. Mais en tout cas, ça a l'air génial vu le dossier artistique que j'ai lu, et le service culturel m'en a parlé énormément, donc ça a l'air super. Venez.
Et donc, il y a des troupes, des créations que vous avez accompagnées. Il y a aussi des troupes invitées. Comment ça se passe la rencontre avec ces troupes invitées? Est-ce que ce sont des projets locaux ou alors ça vient d'ailleurs aussi?
Alors le but, c'est que ça vienne de partout. Les autres années, donc, il y avait plutôt à l'étranger. Cette année, on a fait le choix de ne pas faire venir les gens à l'étranger, à part la troupe de Suisse qui vient assez souvent. Mais en raison de la crise sanitaire, on a préféré pas trop prendre de risques. Du coup, il y a des troupes qui viennent de Paris, de Strasbourg, et donc il y a IGR, donc ils gèrent rien sur scène, qui vont faire l'indécision, qui viennent de Rennes. Et il y aura Planck soir, aussi, qui vient de Brest. Voilà, ce sera à peu près tout.
Et pour terminer, donc, vous êtes engagés, vous trois, dans ce festival autour de cette association. Est-ce que le théâtre, c'est, c'est un domaine dans lequel vous souhaiteriez vous engager ou exercer à l'avenir, ou ça reste avant tout une passion?
Bah, pour ma part, oui, j'aimerais beaucoup m'engager et continuer à l'avenir. On a eu l'expérience, du coup, avec Yona, de mettre en scène Fracassé. On a joué hier, enfin, nos comédiens ont joué hier. Et franchement, c'était une expérience incroyable. Je suis hyper fière de nous deux, tout ça. Et du coup, j'ai clairement envie de continuer à faire ce genre de projet et à ressentir ce genre de choses encore une fois. Ouais.
Moi aussi, franchement, l'expérience de l'arène théâtre m'a permis de comprendre et d'être sûre, en tout cas, que je voulais continuer là-dedans. Après, je ne sais pas vraiment ce que je vais pouvoir faire, mais en tout cas, je sais que je veux continuer là-dedans.
Non, moi, justement, j'ai pas envie de continuer forcément dans le théâtre, mais et en fait, c'est une grande partie de ma vie depuis très longtemps, le théâtre, enfin l'art en général. Moi, j'aurais quand même me diriger vers des études d'art, mais plutôt de l'illustration, et garder ça comme loisir à côté. Mais je trouve que c'est une trop bonne expérience, enfin, de me dire que pendant ma jeunesse, j'ai pu organiser un festival. Enfin, je veux dire, ça arrive pas à tout le monde, et je trouve que c'est trop bien de pouvoir se lancer dans un truc comme ça avec beaucoup de responsabilité, mais en même temps beaucoup de plaisir. Et moi, du coup, c'est une trop bonne expérience, et je suis très, très, très heureuse d'être dans ce projet, quoi, là.
Donc ce festival se tient donc depuis hier et jusqu'à samedi prochain, donc le 26. Donc beaucoup de choses, beaucoup de créations dont on vient de parler, des adaptations aussi. Donc il y a eu 12 hommes en colère, il y a une pièce de Ionesco, il y a une pièce de Coltès. On peut retrouver le programme donc évidemment
sur le site internet de l'arène.
Et voilà, c'est ouvert évidemment à tout le monde. Oui. Merci beaucoup à vous trois d'être venus dans l'inattendu, dans les studios de Syllab. Bah,
merci à vous de nous avoir accueillis.
Merci à vous.
Merci.
Dans la vie, il n'y a pas de problème avec les fatalités.
Tout de suite, on écoute un autre artiste rennais, Jude Law. Son prochain album Ego Trip sortira le 15 avril prochain. En attendant, il nous fait patienter avec le titre Bottle. On écoute ça tout de suite sur Syllab.
Let me know.